les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Nicolas Bonucci, juriste au sein du cabinet Paul Hastings et ancien directeur juridique de l'OCDE, nous parle de la corruption internationale. Troisième épisode, les acteurs de la corruption internationale.
Chers auditeurs d'Amicus Radio, bienvenue dans le troisième épisode de la mini-série dédiée à la corruption internationale. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode, ils se souviendront que j'avais mis une musique d'un film syrienien. Eh bien, une affaire de corruption internationale ressemble quelque peu à un casting d'un film. Il y a des acteurs principaux et des acteurs secondaires. Et pour que le film soit réussi, si je puis dire, il faut que le casting soit parfait, car même un rôle secondaire peut jouer un rôle déterminant. Nous allons donc examiner les différents acteurs dans cet épisode. Les acteurs principaux, le corrupteur et le corrompu. Le corrupteur, une des grandes avancées de la Convention anticorruption de l'OCDE, a été de déterminer qu'au-delà de la responsabilité des personnes physiques, typiquement les employés d'une entreprise, la responsabilité de la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise elle-même, pouvait et devait également être mise en cause en fonction du déroulement des faits. Ainsi, la personne morale ne peut plus jouer aux trois singes, vous savez, ceux qui ne voient pas, qui ne parlent pas et qui n'entendent pas, et ne pourra pas être exonérée de sa responsabilité que si les personnes physiques ont sciemment circonvenu les programmes de conformité mis en place. De fait, il appartient donc aujourd'hui à l'entreprise non seulement de démontrer qu'elle n'a pas été complice ou qu'elle s'est rendue coupable d'une négligence, mais au-delà de ça, d'avoir mis en place un programme de compliance, en France de conformité, robuste et crédible. C'est en tout cas ce qui a été prévu dans la loi Sapin 2. Le corrompu. Le spectre de qui est le corrompu est très large. Si l'on reprend la définition d'agent public étranger, telle que spécifiée par la Convention OCDE, cela vise, et je cite, « Toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme public, et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique. » Sont donc couverts non seulement les fonctionnaires stricto sensu, qu'ils soient locaux ou nationaux, mais aussi toutes les personnes exerçant un mandat ou une fonction publique, ainsi que les agents des organisations internationales et des entreprises d'État. Voici les deux acteurs principaux, le corrupteur et le corrompu. Mais pour que le film se déroule, il faut les acteurs secondaires. Ils sont multiples et ils agissent à différents niveaux. L'appel de Genève, lancé en 1996 par plusieurs magistrats européens, on avait, en son temps, identifié plusieurs.
Le 6 octobre 1996, 7 juges européens, réunis par Denis Robert, lançaient un appel contre la corruption. Certains textes mentionnés dans l'appel ont été ratifiés ou améliorés, mais le défi demeure. Le texte de l'appel. Par cet appel, nous désirons contribuer à construire, dans l'intérêt même de notre communauté, une Europe plus juste et plus sûre, où la fraude et le crime ne bénéficient plus d'une large impunité et d'où la corruption sera réellement éradiquée. Conseil de l'Europe, traité de Rome, accord de Schengen, traité de Maastricht. À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe, plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. C'est aussi l'Europe des places financières et des établissements bancaires où le secret est trop souvent un alibi et un paravent. Cette Europe des comptes à numéros et des lessiveuses à billets est utilisée pour recycler l'argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses. Les circuits occultes empruntés par les organisations délinquantes voire dans de nombreux cas criminels, se développent en même temps qu'explosent les échanges financiers internationaux et que les entreprises multiplient leurs activités ou transfèrent leur siège au-delà des frontières nationales. Certaines personnalités et certains partis politiques ont eux-mêmes, à diverses occasions, profité de ces circuits. Par ailleurs, les autorités politiques, tous pays confondus, se révèlent aujourd'hui incapables de s'attaquer clairement et efficacement à cette Europe de l'ombre. À l'heure des réseaux d'informatique, d'Internet, du modem et du fax, l'argent d'origine frauduleuse peut circuler à grande vitesse d'un compte à l'autre, d'un paradis fiscal à l'autre, sous couvert de sociétés offshore anonymes, contrôlées par de respectables fiduciaires généreusement appointés. Cet argent est ensuite placé ou investi hors de tout contrôle. L'impunité est aujourd'hui quasi assurée aux fraudeurs. Des années seront en effet nécessaires à la justice de chacun des pays européens pour retrouver la trace de cet argent, quand cela ne s'avérera pas impossible dans le cadre légal actuel hérité d'une époque où les frontières avaient encore un sens pour les personnes, les biens et les capitaux. Pour avoir une chance de lutter contre une criminalité qui profite largement des réglementations en vigueur, dans les différents pays européens, il est urgent d'abolir les protectionnismes dépassés en matière policière et judiciaire. Il devient nécessaire d'instaurer un véritable espace judiciaire européen au sein duquel les magistrats pourront, sans entrave autre que celle de l'état de droit, rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours. Nous demandons la mise en application effective des accords de Schengen prévoyant la transmission directe de commissions rogatoires internationales et du résultat des investigations entre juges, sans interférence du pouvoir exécutif et sans recours à la voie diplomatique.
Cet appel, qui prédate en fait la convention OCDE et la plupart des conventions internationales, reste néanmoins pertinent à de nombreux aspects. Passons donc, sur la base de cet appel, en revue les acteurs secondaires qui sont mentionnés dans cet appel, soit explicitement, soit implicitement. Le premier et le plus important reste sans conteste la figure de l'intermédiaire, parfois aussi présenté comme le porteur d'affaires. Un rapport publié par le CE2 en 2014, recensant les 427 affaires de corruption internationale ayant été sanctionnées entre 1999, entrée en vigueur de la Convention, et juin 2014, a identifié que dans plus de 70% d'entre elles, un ou plusieurs intermédiaires ont joué un rôle crucial. Mais qui sont plus précisément ces intermédiaires? Dans plus de trois quarts des cas identifiés par le CDE en 2014, les intermédiaires prennent la forme d'un agent ou d'une entreprise intermédiaire. Ces intermédiaires étaient au départ utilisés assez naïvement pour des services totalement fictifs. Ainsi, dans le cadre de l'affaire Siemens, un consultant de Hong Kong a été recruté pour fournir des services en rapport avec un contrat de centrale électrique. Manque de peau, ce consultant était de fait une société du secteur de l'habillement qui n'avait aucun savoir-faire dans la production d'électricité. Comme on pouvait s'y attendre, il n'a fourni aucun service au mandant. Depuis l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE, les intermédiaires sont utilisés au bénéfice de montages plus complexes, dans lesquels des services légitimes et illégitimes peuvent cohabiter, ou alors dans le cadre de toute une série de chaînes d'intermédiaires. Les deuxièmes acteurs secondaires sont les gatekeepers, un terme anglais qui désigne des gardiens. Un certain nombre de professions peuvent jouer un rôle de gardien des règles, mais aussi, avouons-le, de facilitateurs de la violation de ces règles. Il en est ainsi des auditeurs, des comptables, des banques et autres institutions financières, et d'une profession comme celle des avocats. Dans l'étude de l'OCDE que je viens de mentionner, il est désolant de constater que dans 6% des cas, l'intermédiaire était un avocat. Il s'agit là d'un des enjeux des années à venir. Le troisième acteur secondaire, mais pas si secondaire que ça, est constitué par l'État, les États. Les États sont bien évidemment victimes de la corruption, mais ils sont aussi acteurs de la corruption. Soit parce qu'ils constituent un refuge pour l'argent sale, ce qui a été mentionné dans l'appel de Genève, soit parce qu'ils sont en fait totalement corrompus par le phénomène de ce qu'on appelle le state capture, la capture d'État. On pense ici à un pays comme l'Angola de Dos Santos et sa fille Isabelle. Soit parce qu'ils ne veulent pas voir et combattre le phénomène. et ceci touche tous les États, y compris des États tout à fait respectables. Dans l'affaire British Aerospace Arabie Saoudite, mentionnée lors du précédent épisode, l'une des plus grandes affaires de corruption internationale dont nous soyons à connaissance, le Premier ministre de l'époque, M. Tony Blair, avait publiquement reconnu que sa priorité était de préserver l'emploi au Royaume-Uni et de ne pas froisser la famille royale d'Arabie Saoudite. Ceci alors même que l'article 5 de la Convention de l'OCDE stipule très précisément que les enquêtes et poursuites ne doivent pas être influencées, je cite, « par des considérations d'intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l'identité des personnes physiques ou morales en cause ». Les derniers acteurs secondaires que je voudrais mentionner sont les acteurs économiques, les agences de notation ou les fonds d'investissement ou les fonds souverains. Ils ne sont pas en première ligne, mais ils peuvent jouer un rôle soit positif, soit négatif. En février 2018, le PDG du fonds souverain norvégien, le plus important au monde, fort de ses 1 000 milliards de dollars d'actifs, a mis la pression sur les entreprises en demandant que toutes les entreprises dans lesquelles il est investi aient en place des mesures anticorruption efficaces. Mais de la même manière, les marchés boursiers peuvent aussi être des pourvoyeurs de messages négatifs en ne réagissant pas, par exemple, à une mise en examen. À côté de ces acteurs, il est beau aussi d'identifier des contre-acteurs ou des contre-pouvoirs. Sans prétendre être exhaustif, je souhaiterais en présenter brièvement quatre. Les lanceurs d'alerte. En Europe continentale et spécifiquement en France, le lanceur d'alerte a été vu pendant longtemps avec suspicion, au motif que la dénonciation rappelait de mauvais souvenirs. Ce n'est que dans les dernières années que la perception a changé jusqu'à l'adoption de la loi Sapin 2 et, plus récemment, le 7 octobre 2019, de la directive sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l'Union européenne. Il s'agit du texte international le plus avancé et dont on peut attendre d'importantes conséquences dans le futur. Les médias, comme les radios, se sont toujours intéressés aux questions de corruption. Mais depuis une dizaine d'années, leur capacité d'analyse et d'enquête s'est singulièrement étoffée. De nombreuses affaires ont éclaté ou ont reçu de la visibilité grâce aux médias. La diffusion le 11 juin 2007 sur la BBC d'un documentaire intitulé « Princes, Planes and Payoffs » a mis l'affaire BAE au sein du panorama politique du Royaume-Uni. Et nous avons tous vu les effets de l'enquête sur les Panama Papers enclenchée par le consortium international des journalistes. En France, l'affaire dite de Karachi a été largement tributaire des révélations journalistiques. La société civile, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels la société civile a été aussi étroitement liée au développement du droit international que celui de la corruption internationale. Transparency International a été créé à Berlin en 1993 avec l'objectif affiché de promouvoir un cadre juridique international en matière de lutte contre la corruption et il convient de voir qu'elle est arrivée à ses fins. Depuis lors, d'autres ONG anticorruption se sont créées. Mais des ONG qui ont pignon sur rue depuis longtemps se sont intéressées de plus en plus à la corruption internationale. Ainsi, un rapport du WWF consacré au trafic illégal d'espèces constate en 2012 que, je cite, « le braconnage a tendance à se développer dans les régions gangrénées par les corruptions, où les lois gouvernementales sont peu appliquées et où les alternatives économiques sont rares. Les impacts de la corruption vont en effet bien au-delà du seul cadre économique. » Le dernier contracteur contre-pouvoir, ce sont les organisations internationales. Je ne pouvais pas clôturer cet épisode sur les acteurs de la corruption sans parler des OI, des organisations internationales. Ayant débuté il y a plus de 30 ans dans les organisations internationales, j'étais confronté à la corruption dès mes premières visites en Afrique, où je m'occupais des questions juridiques relatives à la pêche et donc aux licences de pêche. Et pour obtenir la licence de pêche, il fallait payer un bakchiche. Les organisations internationales, notamment celles qui travaillent sur des questions de développement, ont pendant longtemps ignoré le problème, ou plutôt n'ont pas voulu le voir. Il a fallu un discours historique de James Wolfensohn, l'alors président de la Banque mondiale, qui condamnait en 1996 le cancer de la corruption, pour que la banque s'attelle finalement à la tâche. Et ce n'est que très récemment que le Fonds monétaire international, sous l'impulsion de Christine Lagarde, a reconnu l'ampleur du problème. En même temps, les organisations internationales ont été l'ossature et la charpente du droit international de l'anticorruption et constituent encore aujourd'hui l'un de ses piliers principaux. Nous voici au terme de cette brève plongée dans le monde de ceux qui vivent de la corruption et de ceux qui la combattent. J'ai volontairement omis les autorités de poursuite car elles auraient mérité un cycle à elles toutes seules. Mais lors du prochain épisode, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Éric Rousseau du Parquet national financier comme grand témoin, aux côtés de Marc Pitt, l'un des plus grands experts de la lutte contre la corruption.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasny. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.